Et dans cette édition, on regarde du côté du nouveau gouvernement central. On parle aussi de la jeunesse qui est au centre des débats au CESEC ce matin. On s'intéresse aussi à un projet de loi pour encadrer les marges des prix. Et on revient sur les élections à la Fédération internationale de VAE. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Ça y est, la France a un nouveau gouvernement.
Et la Polynésie et les Outre-mer ont un nouveau ministre. Il s'agit de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre de François Hollande a été nommé ministre d'État dans le gouvernement de François Bayrou. Il s'agit d'un ministère de plein exercice, une première depuis 2022 pour le portefeuille des Outre-mer qui a vu se succéder plusieurs ministres délégués. Après des échecs politiques successifs qui ont suivi son départ du gouvernement il y a 8 ans, Manuel Valls se retrouve donc avec plusieurs dossiers importants à gérer, à commencer par la reconstruction de Mayotte, la crise politique, économique et sociale en Nouvelle-Calédonie ou la mobilisation contre la vie chère aux Antilles. A noter que 3 autres ministres d'État ont été nommés dans ce gouvernement. Bruno Retailleau conserve l'intérieur, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne est nommée à l'éducation nationale et Gérald Darmanin devient garde des Sceaux en charge de la justice. Comme le gouvernement Barnier nommé à l'issue des législatives de juin dernier, aucune des 2 forces principales de l'Assemblée nationale que sont le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National n'est sans surprise représentée dans ce gouvernement. Composante majeure du NFP, la France Insoumise a déjà annoncé son intention de censurer le gouvernement, ce qui, on le rappelle, ne sera possible qu'avec les voix d'un autre parti d'opposition.
La première réaction locale vient de Nicole Sanquer.
Oui, la députée craint la réaction de l'Assemblée face à un gouvernement qui ne reflète toujours pas les résultats des dernières législatives, on l'a dit.
Je crains encore que ce gouvernement soit instable, mais je veux rester optimiste, positive. On retrouve quand même dans ce gouvernement des personnes qui étaient là en 2022. L'esprit finalement des dernières élections, si on suit les comptes, c'est pas le meilleur choix. Et j'ai bien peur qu'on retourne dans les vieilles guerres, quoi.
Voilà, Nicole Sanquer au micro de Caroline Perdri. Elle regrette qu'aucun membre de son groupe parlementaire, Liotte, n'ait été appelé au gouvernement. Elle souligne aussi que l'urgence est le vote du budget. Mais alors que l'opposition promet une nouvelle motion de censure dès le mois de janvier, la bonne nouvelle, dit-elle, c'est qu'on aura des interlocuteurs. Mais pour combien de temps ? Fin de citation. A noter que le président Moët et Brotherson lui effectuera un point presse en ce début d'après-midi pour donner son sentiment.
On poursuit par ces mots prononcés au CESEC ce matin, Forever Young.
Et ça n'est pas à l'occasion d'une matinée karaoké, mais de l'étude d'un texte important pour le Conseil économique et social, le schéma directeur de la jeunesse. Étonnamment, c'est une première. Jamais le pays n'avait voté une telle feuille de route, malgré plusieurs chantiers législatifs lancés sous les précédentes mandatures. Ce schéma fixe des objectifs et actions pour la période 2025 à 2035, et il est préparé depuis de longs mois par le ministère de Nahima Temari. Forever Young 2035, c'est donc son titre. Il n'a d'ailleurs pas plu aux défenseurs du français et du réo, mais l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, Charles Irénée.
Eh bien, on a beau vouloir rester jeune, le schéma reprend les bonnes vieilles recettes, des constats généraux sur les 100 000 Polynésiens de moins de 25 ans, soit 35% de la population tout de même, des grands objectifs ensuite avec lesquels il est difficile d'être en désaccord, et puis un plan d'action ou plutôt de projets d'action très divers et qu'il faudra voter et financer un à un. Alors il y a tout de même des idées, des nouveautés dans cette liste, on y parle de suivi systématique des mineurs en surpoids, de prise en charge des consultations de diététiciens, de sensibilisation à la sexualité, de protection de la jeunesse aussi, avec des camps familiaux pour travailler sur la parentalité, du mentorat qui sera développé. Côté éducation, on cite la décentralisation des formations via le numérique et même un festival océanien et un pass jeune dédié à la jeunesse polynésienne. Pour gérer ce programme, 3 nouvelles structures, un comité de pilotage, un observatoire et un conseil polynésien de la jeunesse qui devront être mis en place et mettre même en place les premiers outils d'évaluation de cette politique. Une politique surtout tournée vers les 30 à 40% de ces jeunes qui sont jugés en difficulté par le gouvernement, Valdemar.
Voilà pour les grands objectifs et les grandes actions de ce schéma de près de 80 pages, un document qui d'ailleurs a globalement contenté le CESEC.
Et oui, il faut dire qu'une partie des conseillers ont participé aux travaux de construction du schéma, à commencer par la co-rapporteure de l'avis, Patricia Terrahomea, qui en tant que présidente de l'UPJ a été de tous les comités de préparation. Elle en signe même un des éditos aux côtés de Moët et Brotherson et de Nahima Temari. Difficile dans ces conditions d'être en désaccord, et le rapport vient surtout insister sur les objectifs. 2 remarques importantes tout de même. Le financement des actions, aujourd'hui estimé à 100 millions de francs par an, reste très insuffisant pour le CESEC, qui note aussi une absence de calendrier et de hiérarchisation des actions. Les 3 heures de débat se sont aussi cristallisées sur la question du bénévolat et de son encadrement légal. Il y a des pour et des contre, ce qui n'a pas empêché les conseillers de donner un avis unanimement favorable à ce projet de délibération, en partance donc vers l'Assemblée, Valdemar.
Vous avez entendu les explications de Charles Irénée.
Et puis on parlait parlait aussi de Matari Inia ce matin avec un CESA qui vient un peu gâcher la fête.
Oui, rappelez-vous, cette proposition formulée par le Conseil des ministres en avril, faire du 20 novembre un jour férié pour célébrer le lever des Pléiades et la saison d'abondance. Un projet qui était revenu sur la table après de longs mois de silence il y a quelques semaines dans un comité sur la modification du code de travail. Alors le projet de loi du pays, il est désormais prêt et il passait sur la table du CESEC ce matin. Mais entre-temps, la date a changé. Nana, le 20 novembre, bonjour, le dernier vendredi de novembre, petit changement et gros débat en cours. Le CESEC trouve ce calendrier illogique et cite les avis des associations culturelles comme Haoruru et son président Yves Doudoute. On l'écoute.
C'est comme si on demandait à repousser le premier de l'an dans le calendrier Maori. C'est autour du 20 novembre qu'il y avait ce changement de période. Matari Inia, c'est un marqueur de temps. Et on ne peut pas changer un marqueur de temps. On ne changera jamais. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le ciel, c'est la nature. On ne décide pas à la place. C'est assez dramatique parce qu'on n'a pas compris que le temps et l'espace est fondamental. Et si on ne maîtrise pas ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans la société. C'est peut-être un de nos problèmes, peut-être.
Voilà, du débat sur la date, donc du débat aussi sur l'organisation de ce changement. On en avait parlé, l'inscription de Matari dans la liste des jours fériés du Code civil ne permet pas de l'imposer dans tous les secteurs, puisque les conventions collectives prévoient parfois leur propre liste de jours. Plusieurs d'entre elles, dans le commerce, le BTP, le nettoyage ou le transport aérien notamment, doivent être modifiées dans les prochains mois pour intégrer Matari ou pour exclure le jour qui est au passage supprimé du Code civil le 29 juin et la fête de l'autonomie. Et pour ça, il faut du temps, comme le relève Christophe Play.
Il y a toute la problématique pour les conventions collectives a changé. Alors on l'a vu, c'est à minima 6 mois pour beaucoup de conventions collectives qui sont obligées de prendre des juristes. C'est un gros travail, donc c'est un peu juste. Le CESEC préconise une transition sur l'année 2025 pour une application plus 2026. Moi, j'aurais tendance à partir sur cette proposition-là. Puis vous donner un jour fixe, je crois que c'est plutôt bien.
Le président de la CPME qui s'étonne au passage que le choix de la date supprimée, celle du jour de l'autonomie, ne soit pas contesté ou discuté dans le projet de rapport du CESEC. Ce sera probablement fait dans les débats qui sont en cours au sein de l'institution consultative.
Après les PPN et les PGC, le gouvernement veut élargir la possibilité d'encadrer toutes les marges et tous les prix.
Oui, le gouvernement, pressé par la population et l'Assemblée d'agir sur la cherté de la vie, a transmis à Tarahoy son projet de loi sur l'encadrement des prix et ou des marges de potentiellement tous les produits et services qui bénéficient d'exonérations douanières et fiscales. Il s'agit d'éviter que les produits soient commercialisés à des prix exorbitants, nous dit l'exposé des motifs, sans répercuter au consommateur final le bénéfice de ces exonérations. Mais l'aspect arbitraire saute aux yeux, Caroline Perdry.
Oui, le gouvernement indique, je cite, que le dispositif sera ciblé sans caractère automatique et que, je cite encore, seule une part minime des produits fera l'objet d'un encadrement. Mais en visant de manière vague des produits ou des services qui participent à la cherté de la vie ou au développement économique et social du pays, le texte laisse un très large champ au Conseil des ministres et à ses arrêtés. Des arrêtés qui n'avaient pas non plus été transmis au CESEC et à l'autorité de la concurrence, qui avaient tous les deux rendu des avis défavorables au projet de loi en juillet dernier et émettaient des doutes sur la capacité d'administration à procéder aux études minutieuses promises par le gouvernement.
Et en ce qui concerne son aspect pratique, le texte va imposer aux importateurs, grossistes et revendeurs de mentionner sur leurs devis et leurs factures la part des produits bénéficiant d'exonération. Les sanctions pourront aller de 600 000 francs pour une personne physique à 6 millions pour une personne morale. On se souvient que plusieurs dispositions de la loi du pays sur l'encadrement des prix et marges des PPN et PGC avaient été censurées par le Conseil d'État fin 2022 pour manque de précision. S'il est adopté, ce texte fera sans aucun doute l'objet de recours, à commencer par celui de la Fédération Générale du Commerce.
Hier, les taxis ont manifesté comme prévu.
Oui, un défilé de FA à Mataya avant un rassemblement devant la présidence, mais pas de rencontre avec Moetei Brotherson pour les 87 chauffeurs mobilisés. Ils estiment que trop de licences sont attribuées, que ce soit aux taxis ou aux transporteurs logistiques. Ils regrettent aussi de n'avoir aucun détail sur les réformes envisagées par le ministère et la direction des transports terrestres. Le ministre en charge du dossier, Jordi Chan, a tout de même tenu un point presse. Il refuse de bousculer le calendrier établi, alors que les chauffeurs demandent à présent en priorité une réforme de la profession de transporteur touristique qu'ils accusent de concurrence déloyale. Faute de réponse positive, le conseiller technique de la coordination des syndicats des taxis de Tahiti et de Moorea, Bob Carpentier, prévient que les choses sérieuses commenceront, et ce, à la rentrée de janvier.
On n'a pas voulu gêner trop la population parce que c'était un dimanche qu'on a choisi, mais à la rentrée des classes, ça sera les heures de rush, on va dire. Et donc là, on mettra 20 d'un côté, 20 de l'autre, et on renouvellera tous les jours si on a besoin, si c'est nécessaire, si on n'est pas entendu. On attend que le président donne un coup de téléphone peut-être au ministre. Je ne vois pas qu'est-ce que ça gêne de faire d'abord les transports touristiques et les taxis après.
De son côté, Jordi Chan souligne que la réunion tenue vendredi dernier avec les taxis a conclu que le gouvernement respectait les engagements pris en avril dernier. Il cite notamment la rénovation de la station du centre Weimar, la mise en place d'un stationnement dédié à Vallare. Il explique aussi que la réflexion est entamée sur la réforme de la profession des taxis en 2025. Mais s'il refuse de changer son calendrier, ce n'est pas seulement parce que le travail est déjà commencé.
Aujourd'hui, quand on regarde toutes les plaintes qui sont adressées par les usagers concernant ces deux professions, on estime qu'il est plus pertinent de mener à bien d'abord la réforme des taxis. Toutes les plaintes finalement sont dirigées vis-à-vis des taxis. En fait, on reçoit pas mal de plaintes concernant un refus de prise en charge, des tarifications qui sont parfois abusives, la non-utilisation du taximètre ou même des excès de vitesse. Nous, notre priorité en tant que gouvernement, c'est de réformer la profession en tenant compte de l'avis des professionnels, mais également et surtout pour améliorer la qualité de service pour l'usager.
Et ces plaintes, elles pointent le refus de prise en charge, les tarifications abusives, la non-utilisation du taximètre ou encore les excès de vitesse. Le ministre affirme que le délai entre les deux réformes sera de quelques mois tout au plus.
Sur nos routes, toujours, un triste record ce week-end.
Oui, avant même les fêtes de fin d'année, 38 personnes ont perdu la vie cette année au Fénois après l'accident qui a entraîné le décès de deux hommes et une femme d'une trentaine d'années dans la nuit de vendredi à samedi à Mataya. Sur nos routes, c'est donc toute proportion gardée, trois fois plus de décès qu'en métropole. Le Fénois bat ainsi le record de 2022 lorsqu'on dénommait 35 décès sur la route et le chiffre de 2023 qui était de 34.
On passe au sport, la Fédération Internationale de VA échappe encore à Tahiti.
Oui, privée de la présidence à la Fédération Internationale depuis 2015, la Fédération Tahitienne a échoué à reprendre le siège à la Néo-Zélandaise Lara Collins. Elle a été confortablement réélue pour 4 ans, ça s'est passé mi-décembre. Aldo Maweo et Tavararo Poroi étaient les candidats du Fénois, mais seules les fédérations francophones, Tahiti, Wallis, Nouvelle-Calédonie et la France, ont soutenu la candidature tahitienne, en plus d'une autre fédération internationale, ça fait tout de même pas beaucoup. Le président de la Fédération Tahitienne Rodolphe Apuari précise que le scrutin pour désigner le vice-président n'a pas non plus permis à Tahiti de l'emporter, avec 9 voix récoltées.